des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Vous êtes sur la zone payante en compagnie de Jean-Nicolas Gagné et de Stéphane Canoret. Et cette semaine, notre invité, un coach, on l'appelle encore coach du saut, même après toutes ces années qu'on n'a plus le plaisir de le retrouver sur les lignes de côté. Et il est avec nous, on a plusieurs questions à lui poser. Bonjour Jacques.
Bonjour monsieur.
Merci d'être là, coach. On se demandait qui on invitait cette semaine parce que à chaque semaine, on a toujours des invités pour notre podcast et on se disait, hey, cette semaine, ce serait bon de parler à un coach qui nous explique qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème au poste de corps arrière pendant une saison. On va y revenir si tu veux bien, Jacques, mais on va commencer par les mêmes questions qu'on pose à peu près à tous nos invités qu'on reçoit ici à la zone payante pour un peu... comprendre d'où vient l'amour du football chez chacun. Et j'aimerais ça que tu nous rappelles ou que tu nous racontes ton premier souvenir de football, la fois où tu as dit « Hey, wow, ce sport-là, là, je vais en faire puis je vais suivre ça toute ma vie. »
Ben moi, la première fois, je suis originaire de Québec. La première fois, j'écoutais, je pense que je devais avoir 7 ou 8 ans en avant. On avait juste 2 stations de télévision à cette époque-là. Et puis, j'ai ouvert par hasard, j'avais pas trop le choix, j'avais 1 ou 2. Et je suis monté sur un match de football, c'était McGill contre Toronto, je m'en souviendrai toujours. C'est la première fois que je voyais ça, du football universitaire. Je comprenais évidemment l'anglais, là. Je comprenais pas grand-chose là-dedans. Mais ce qui était étonnant, c'est que j'ai regardé tout le match. Après ça, je me suis dit, moi, un jour, je vais jouer pour ces équipes-là. Puis, effectivement, je me suis retrouvé à jouer au football universitaire à l'Université McGill.
Ah oui, parce que tu es originaire de Québec, mais tu as fait le tour de la province, toi.
Ben, je veux dire, j'ai pas vraiment fait le tour de la province. J'ai fait le tour, je suis allé dans les Maritimes, je suis allé aux États-Unis. Je suis allé en Europe, le tour de la province, pas plus que ça. À un moment donné, je suis allé à Trois-Rivières parce que il y avait plus d'école qui voulait m'accepter à Québec. Je sais pas, il y avait un petit problème de communication.
Oui. Tu m'as dit ça hors des ondes, mais on peut en parler, là. Pourquoi c'était si difficile pour toi de rester aux écoles de Québec? Tu m'as dit que tu as fait à peu près toutes les écoles de Québec.
Oui. J'ai même terminé à l'époque l'externat classique à Saint-Jean-Eudes, c'est ça, mais ça a duré pas plus. Ils m'ont duré une demi-session, eux autres. Après ça, le CG, en tout cas. C'était juste, ça m'intéressait pas. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je me suis retrouvé à finalement faire une maîtrise des années plus tard. Fait que c'est bien pour dire qu'on sait jamais quand la lumière va nous frapper, quoi.
Est-ce que c'est ce qui t'a rattaché à l'école, le football? Tu dis que tu es allé à Trois-Rivières. Je présume que c'était ta dernière chance.
Oui. Je fais souvent des farces avec certains de mes amis. J'ai dit, moi, si j'avais pas été à Trois-Rivières, j'aurais eu un scholarship à vie, habillé, nourri, avec un beau gilet rayé.
Oui, c'est ça. tu jouerais au football avec, comment il s'appelle, le gars des Raiders.
Oui, c'est ça. Mais non, c'était la meilleure chose qui m'est arrivée, de m'en aller à Trois-Rivières, parce qu'à Québec, là, ça allait bien jusqu'à... C'est là qu'on a commencé à jouer au football tout de même. Là. On a même été la première équipe francophone à battre une équipe anglophone. En plus de ça, pour ces plaines d'Abraham, ça leur a fait mal.
Ah oui! Ah oui, c'est vrai, il y a des matchs qui se déroulaient sur les plaines. Et ça, c'est...
Oui. Il y avait beaucoup de monde aussi. C'était pas clair, pas de gradins. Là, oui. Pas pour nos matchs, mais les matchs... Il faut dire qu'il y avait une équipe similaire de Québec, il y avait une équipe Saint-Jean-Eudes, il y avait Québec High School à l'époque, il y avait Saint-Patrick, mais non, il y a beaucoup de monde.
Bon, puis là, ensuite, c'est ta carrière d'entraîneur qui débute. Les Cougars de Saint-Léonard, tu disais tantôt, t'as voyagé, t'as été dans la défunte Ligue mondiale. Ensuite, t'as été aussi avec les Alouettes. C'est quoi ton plus beau souvenir comme entraîneur? Parce que les Carabins aussi, j'en pense, il y en a tellement de places où on t'a vu. Mais c'est quoi ton plus beau souvenir comme entraîneur?
Ah, ça, je me fais poser cette question-là souvent. C'est assez difficile de répondre. Je pense que je peux pas dire ça, c'est mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, il se résume par le fait que j'ai pu faire quelque chose que j'aimais pendant au-dessus de 40 ans. C'est ça, mon plus beau souvenir, ensemble. Je sais pas. Je peux-tu tricher et dire ça?
Bien sûr. Ben oui. Ben non. Ben, parce que c'est vrai qu'en 40 ans, moi-même, j'aurais de la difficulté à trouver un meilleur moment. Parce que, tu sais, le football, en plus, est tellement proche de ta gang. Tu sais, chaque succès, chaque année que tu as un succès, c'est le plus beau succès de ta carrière. Alors, je te comprends d'avoir de la difficulté à trouver, mais est-ce que pour toi, les expériences que tu as eues dans le football professionnel étaient plus intéressantes qu'au niveau universitaire ou collégial, ou pour toi, il n'y a pas de différence?
Mon approche n'a pas changé. J'ai terminé mon coaching dans une école secondaire pendant 40 ans parce que je voulais revenir où ça. Puis j'ai traité de la même façon, les meetings, les pratiques étaient structurées comme chez des professionnels, sauf que s'ils ne recevaient pas un chèque de paye, puis l'aspect éducation était vraiment omniprésent tout le temps, puis ça n'a même pas forcé. Au niveau professionnel, il ne faut pas se le cacher. C'est pas le. Tu sais, quand j'entends des clichés comme on est une famille au niveau professionnel, là, je me dis, ouf, faut faire attention quand quelqu'un prononce le mot famille, je me suis déjà fait dire colle-toi sur le dos au mur parce qu'il veut qu'il mette ta main sur son portefeuille parce qu'il veut t'emprunter d'argent. je pense que c'est vrai aussi. C'est la famille, c'est la famille. Puis quand une chose est certaine, c'est que quand tu gagnes, il n'y en a pas de problème. Puis quand tu perds, il y en a des problèmes.
Bon, dernière question, on va te passer un petit peu à l'actualité de la NFL. On se rappelle de toi aussi avec les Carabins, évidemment. On parlait tantôt de la rivalité, mais est-ce que pour toi, tu regardes toujours le football universitaire avec un œil intéressé en tant qu'ancien coach, ou tu réussis à te détacher un peu de tout ça, là, puis de la passion qui t'animait à l'époque?
Non, je suis tous les matchs universitaires. Moi, j'ai mes deux garçons qui sont entraîneurs à temps plein au Cégep de Trois-Rivières. C'est certain que je regarde ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Mais moi, je suis plus nerveux quand c'est l'équipe à mes gars qui jouent que quand je coachais. C'est mal fait, cette affaire-là. Mais non, je suis tous les matchs. Je regarde ça, ça m'intéresse. Et puis, je m'aperçois d'une chose, c'est que ça a évolué de façon incroyable, mais il y a certaines choses qui s'en vont dans la bonne direction, puis il y en a d'autres, mais je trouve que ça s'en va pas dans la bonne direction. Ça doit vouloir dire que je commence à devenir vieux. Puis
beaucoup. Ben, comme quoi, rapidement, comme quoi, qu'est-ce que tu trouves qui prend la bonne direction, puis d'autres pas la bonne direction?
Ben, la bonne direction, on voit que les jeunes reçoivent des bonnes notions quand tu regardes les tracés de passe, tu regardes les distributions des receveurs sur le terrain, défensivement, les stratégies. Tu vois que c'est tout de même assez bien rodé. Là où il y a des carences, c'est au niveau du plaquage. Ça plaque plus tellement bien, ça pousse plus. Je veux dire, au niveau du bloc aussi, c'est les techniques de base sont en train de souffrir parce que les jeunes sont projetés dans des matchs trop vite. Fait qu'à un moment donné, l'entraîneur, lui, il veut arriver au match puis avoir pratiqué à plaquer pendant trois semaines de temps pour avoir deux jeux à l'attaque.
Fait qu'ils négligent le côté technique pour le côté tactique, là.
T'as pas le choix, t'es poussé dans cette direction-là, puis là, on a voulu changer des règles. Bon, on a changé des règlements pour quand c'était la fameuse rage des commotions cérébrales, là, il y a eu des drôles de décisions qui ont été prises, mais quand c'est pas nous autres qui prenons la décision, des fois, on a tendance à penser que c'est drôle. Mais c'est toujours plus facile de critiquer, donc j'en manquerai pas là-dedans.
Jacques, il y a tout le volet joueur, entraîneur, passionné de football, mais il y a le volet analyste aussi. Tu as été longtemps analyste pour les matchs de la NFL, entre autres. Est-ce que la NFL, c'est toujours d'intérêt de ton côté?
Je regarde beaucoup de matchs, beaucoup, des matchs collégiaux américains. Je trouve que c'est là que c'est le mieux arbitré. Je trouve que c'est certain que les jeunes jouent avec plus de passion. Il y en a que c'est leur dernière chance d'avoir une vie convenable. C'est assez intense. Pour ce qui est de la NFL, oui, je la regarde, la NFL, mais tu sais, c'est le sport a changé. Là. Tu vois des joueurs, nous autres, on disait qu'il faut aller au contact quand tu es un joueur défensif, là, tu vois les joueurs qui arrivent, ils n'osent pas trop, ils ne veulent pas avoir de pénalité. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Les règlements ont été changés pour avantager les attaques. Puis ça, c'est. Je pense que le monsieur, madame, tout le monde veulent voir des points. Pour eux autres, c'est un beau match. Ça finit 48 à 44. Puis pour d'autres, très peu de personnes vont aimer un match défensif. Moi, j'aime un bon match défensif. J'aime pas ça des matchs de. J'appelle ça des matchs de flag football, là, quand ça finit 48 à 46. C'est-à-dire que il n'y a aucune notion de défensive à ce moment-là. Je suis moins friand de ça, mais pour répondre à ta question, oui, je regarde, mais pas avec. Quand j'analysais, puis quand. Je faisais de la radio, ainsi de suite. Tu sais, je retenais les noms des joueurs, je retenais les numéros, qu'est-ce qui s'était passé à tel et tel moment. Là, non, là, je regarde juste l'ensemble du jeu, parce qu'il y a toujours des nouvelles formations. Quand il y a des décisions à prendre, je me dis qu'est-ce que moi je prendrais comme décision, ces choses-là, mais je regarde pas avec autant de... d'intensité, de les numéros, les joueurs, les statistiques, tout ça.
Cette semaine, pour rester dans le volet NFL, ben il y a quelques controverses de carrière. T'sais, chez les Patriots, entre autres, en ce moment, on sait pas trop, ça va-tu être Mac Jones, Bailey Zappi, on y va-tu avec la recrue ou le joueur de deuxième année. Il y a quelques autres équipes aussi là, qui vivent une situation comme ça. Comme coach, convaincu que tu as eu à gérer des choses comme ça. Comment on aborde cette question-là? Ça doit être très délicat dans un vestiaire, ça.
Ben, d'abord, dans un premier temps, la controverse sur les corps arrière, elle vient pas de l'intérieur, elle vient de l'extérieur. Le match est terminé, ça fait pas cinq minutes, puis la première question que tu poses à l'entraîneur, puis là...
Maudit journaliste, hein, Jacques? C'est les maudits journalistes.
Ben, je veux dire, non, je dirais pas ça, parce que j'ai des bons amis qui sont journalistes, mais c'est certain que ça vient de la pression des partisans, probablement la pression aussi du propriétaire. Ça dépend des propriétaires. Il y en a qui sont moins reposants que d'autres. Mais... D'abord, ça dépend du contrat aussi. Là. Tu sais, si tu signes un jeune et tu lui donnes un bonus de 30 millions, tu vas y penser trois fois avant de le mettre sur le banc parce que il y a quelqu'un qu'il faut qu'il approuve ça là, quand gérer les sous. Mais pour essayer de mettre ça un peu plus clair, c'est que au camp d'entraînement, tu dis, tu sais, c'est ouvert pour tout le monde, puis tous les corps arrière vont avoir leur chance. Mais c'est impossible, ça. Parce que il y a un certain nombre de ce qu'on a des répétitions où tu peux pas diviser ça en trois ou en quatre. ceux qui vont carrière qui vont aller avec tes receveurs partant, tes porteurs de ballon pour que le synchronisme en souffre pas. Donc, faut que la décision soit prise. Faut qu'elle soit prise après chaque semaine, surtout quand il y a vraiment un problème à savoir. En tant que coach, tu dis qui va jouer, c'est parce que là, ça va mal. Parce que ça veut dire que t'as deux carrières sont plus ou moins bons. Et tu as mentionné les Patriots de Nouvelle-Angleterre, là. Jones puis Zappé, c'est pas. Tu regardes les statistiques, c'est ouais. pas.
Je dis souvent, moi, que quand t'en as deux, t'en as pas un.
Oh ben, c'est à peu près ça. T'as sept interceptions, je pense. Puis. De 7 passes de toucher puis 9 interceptions. À ce moment-là, le but d'un entraîneur-chef, c'est de mettre son équipe dans la meilleure position pour gagner le match.
Okay, mais Jacques, moi, j'ai une question pour toi. Pendant le match, sortir le crochet, ça me semble que. Tu sais, je comprends ton idée pendant la semaine, tu discutes, puis tu dis, ouais, ça va mal, faut choisir un des corps qui va nous donner le plus de chances de gagner. Mais pendant le match, là, quand tu sors le crochet, ça, c'est quand même, les yeux sont sur le coach.
Oui, mais là, ça, si les choses sont bien faites, puis je pense que la plupart des gens le font bien, les coachs, les joueurs sont avertis. Là. Tu t'assis avec les carrières, puis tu leur dis, regarde bien, là, toi, c'est Jones, toi, qui va partir le match, puis... ton coéquipier, ben si ça va mal, il va embarquer. Tu c'est pas des décisions qui sont prises sur l'impulsion, tu sais, du moment ou quoi que ce soit. C'est des choses dont on a parlé. Les décisions les plus importantes que tu vas avoir à prendre durant un match ont été, c'est sûr qu'il y en a, tu peux pas te préparer, c'est toujours les impondérables. Mais ces décisions-là sont toutes prises à l'avance parce que tu veux prendre justement les décisions en chassant les émotions. Fait que c'est pour ça que c'est fait d'avance. À un moment donné, une équipe, c'est 4-1, puis 4-2, puis ils vont toujours tenter d'aller chercher le premier jeu. Puis là, les gens disent, mais qu'est-ce qu'ils font là? Ils savent pas ce qu'ils font. C'était pris, ça, une semaine d'avance, avant le match. On a dit, bon, on se rassemble les joueurs, on dit, bon, ben, cette semaine, dans cette situation-là, on va y aller tout le temps. Puis là, les joueurs, d'habitude, sont tous d'accord avec ça. Pour les carrières, c'est sûr que c'est plus difficile. Il faut absolument que tu comprennes aussi qui est celui en qui on croit le plus. Tu arrives dans le vestiaire, t'annonces c'est qui va de la carrière partant, puis 80% des têtes tombent entre leurs deux jambes. C'est pas bon. Fait que, tu sais, c'est... Il faut que tu aies le pouls des gens qui sont là, puis tu as toujours des ce qu'on a des leaders, puis là, ils vont venir te donner leur opinion là-dessus. Mais quand tu n'en as pas.
Ouais, toi, tu laissais les joueurs rentrer dans ton bureau et dire ouais, coach, je pense que c'est telle personne qui devrait partir cette semaine.
Pas de cette façon-là, là, tout de même. Mais je veux dire, sinon, c'est moi qui pouvais.
Allez les voir, là, un peu les questions.
Allez les voir, moi. Ben moi, il y a une année, on a gagné, je me souviens, on a gagné, c'est pas le même niveau, là, c'est pas le même calibre, un bol d'or dans le collégial première division. Là, il y en avait vraiment des carrières. C'était bon, mais c'était tous des jeunes. J'ai demandé aux carrières un à fois, penses-tu qu'on peut gagner le bol d'or avec toi? J'ai demandé aux trois. Il y en a un qui m'a répondu tout de suite oui. Ben, c'est lui qui a commencé le match. On a gagné.
Ah oui, t'as des gars qui t'ont dit non. Boy.
Ben, ils n'ont pas dit non. Mais
il n'était pas confiant.
Moins affirmatif.
Exact. J'aime le terme moins affirmatif. Voilà.
Puis, rapidement, Jacques, tu sais, il y a des problèmes depuis le début de la saison du côté de Green Bay avec Aaron Rodgers, du côté de Tampa avec Tom Brady. On ne s'attendait pas à ça. Même les Colts avec Matt Ryan. Une question qu'on se pose dans la zone payante, est-ce que les corps arrière plus âgés commencent à être dépassés par la vitesse de la nouvelle NFL ou, écoute, ils vont trouver des solutions là, dans le temps puis on parlera plus de ça dans quelques semaines?
Non, ils ne sont pas dépassés. C'est Aaron Rodgers parce que c'est un petit peu regrettable de le voir aller sur le terrain parce qu'on dirait qu'il boude. Tu sais, il a perdu son ami Devante Adams, je pense.
Oui, hein,
oui. Ouais. Puis il est comme un enfant qui boude. Je veux dire, c'est pas. Il a l'air bête tout le temps. Tom Brady, là, c'est parce que sa ligne à l'attaque, elle ne donne pas trop de chance non plus. Et puis Matt Ryan, lui, c'est assez. C'est un petit peu plus complexe parce que c'est un gars qui a eu des saisons, là, des bonnes saisons comme les autres. Mais je pense pas, parce que tu regardes Aaron Rodgers, le dernier match, là, il a fait des passes là, que personne.
La passe dans zone début à Aaron Jones, son porteur de ballon, entre autres, là, c'était de l'or.
Il y en a un autre qui. Il s'est comme défait de la pression vers sa gauche. À un moment donné, il a lancé ça juste par-dessus le demi-défensif, direct dans les mains du receveur. Là, c'est ça, vieillir et vieillir bien. Brady va faire la même chose. Pas ce genre de passe-là, mais quand tu le vois aller, quand j'entends les gens dire « Ah, il n'y a plus le bras qu'il y avait, attends un peu, là, allez attraper le ballon, c'est voir que ça en vient. » Puis Matt Ryan, ben lui aussi, il a un bon bras. C'est juste peut-être une question de motivation là, après tout ce temps-là. Parce que ce qui est dommage, puis ce qui est compréhensible d'un autre côté, ces gars-là, ils veulent gagner un autre Super Bowl. Mais c'est parce que c'est un sport d'équipe. Donc là, quand un carrière dit « Moi, je reviens parce que je voudrais gagner un Super Bowl », ben là, quand t'arrives puis tu perds des matchs deux, trois de suite, là, tu t'aperçois qu'après même pas le 1/5 de la saison, tu te rendras peut-être même pas au Super Bowl, tu feras peut-être même pas les séries éliminatoires. C'est un petit peu moins réjouissant pour eux. Quand t'es jeune, ben tu te dis « j'étais en apprentissage », mais là, eux autres, je pense que l'apprentissage est derrière eux autres.
Exact. Et les bonnes années, il y en a moins qui restent en avant qu'il y en avait en arrière. Mais merci, Jacques. J'espère que c'est pas le cas pour toi. C'est un plaisir pour nous d'avoir pu parler au coach du saut aujourd'hui. Ton analyse encore va plaire, j'en suis sûr, à nos auditeurs. On va se dire à une prochaine. Coach du saut, merci beaucoup d'avoir été là.